a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, édition de ce vendredi 14 février 2020. Nous parlons des relations États-Unis-Afrique. Le chef de la diplomatie américaine est attendu demain au Sénégal, puis s'il se rendra en Angola et en Éthiopie. Mike Pompeo a pour mission de peindre un tableau positif des relations de coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Il s'agit de sa première visite en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction il y a 2 ans. Vous pouvez bien évidemment participer à cette émission en nous laissant vos commentaires sur Facebook ou en intervenant directement au téléphone. Le numéro, c'est le 001-202-205-2633. Et tout au long de ce programme, j'aurai le plaisir d'avoir comme invité Ousmane Sen. Il est directeur du West African Research Center, un centre qui est basé à Dakar au Sénégal. Monsieur Ousmane Sen, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, donc vous allez rester avec nous. Merci pour votre disponibilité. Mais on va commencer par écouter cette réaction qu'on a pu recueillir de Herman Cohen, l'ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Il évoque justement l'objectif de cette visite de Mike Pompeo au Sénégal et en Afrique. On l'écoute.
Oh, et il y a plusieurs raisons. D'abord, l'administration de Trump a établi une politique envers l'Afrique. C'est de M. Bolton qui a fait un discours. Il a parlé de prospérité pour l'Afrique, c'est-à-dire encourager les sociétés américaines d'investir en Afrique, créer des emplois, faire de la richesse. Donc, il voudrait voir comment on peut procéder. Il a dit qu'il doit aller en Angola parce qu'Angola cherche l'argent qui a été volé par l'ancienne famille de l'ancien président Dos Santos. Et nous avons des experts là-dedans. Il va proposer une aide au gouvernement d'Angola. Et il va en Addis Ababa pour voir l'Union africaine. Je suis sûr qu'ils vont discuter l'aide militaire que l'Amérique donne au pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme.
Et il y a également un autre pays, le Sénégal.
Oh oui, bien sûr, le Sénégal. Je sais que M. Pompeo va là-bas pour montrer au monde extérieur que le Sénégal, c'est un vrai pays démocratique, aussi démocratique que les États-Unis. Et il faut féliciter les Sénégalais pour avoir établi un gouvernement démocratique qui est très rare dans le tiers monde.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun pays d'Afrique centrale?
Oui, c'est une bonne question. Je crois qu'il voulait aller au Congo. C'est dommage qu'il ne va pas là-bas. Je peux vous révéler aujourd'hui que l'Amérique va aider le Congo à établir un tribunal criminel qui va chercher des gens qui ont fait des atrocités pendant la période de président Kabila. Et j'aurais voulu qu'il peut parler de ça, mais il va faire ça après, sans doute.
Alors, vous parlez de rapprochement entre les États-Unis et l'Afrique, mais on observe aussi que Washington envisage de réduire ses forces militaires en Afrique, et les États-Unis ont par ailleurs durci les conditions d'obtention de visa pour les Africains. C'est pas des signes de rapprochement, ça?
Oui, d'abord, je crois que la proposition de réduire les soldats au Sahel, il y a des gens dans le Congrès qui sont contre. Donc, ça va se passer, j'en suis sûr.
Et pour les visas?
Pour les visas, ça, c'est un problème technique. Nous avons besoin d'échanger des renseignements sur des gens qui essayent de venir aux États-Unis pour faire du mal. Et certains gouvernements, pas seulement en Afrique, mais dans d'autres continents, ne peuvent pas arriver à échanger des renseignements avec nous. Et je crois que les pays qui sont nommés comme l'Érythrée, ils vont bientôt nous aider.
Voilà, c'était Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Et pour parler donc de cette visite de Mike Pompeo en Afrique et des relations États-Unis, États-Unis-Afrique, on vous le disait, on a comme invité donc Ousmane Sen, il est directeur du West African Research Center, c'est à Dakar, au Sénégal. Monsieur Ousmane Sen, quel commentaire faites-vous de cette visite de Mike Pompeo en Afrique et en l'occurrence au Sénégal où vous vous êtes?
Oui, je crois que, on allait peut-être dire qu'il était temps que quelqu'un à un niveau important du gouvernement de Trump pense à visiter le Sénégal. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et on accueille cette visite-là avec beaucoup de fierté, le Sénégal, mais aussi avec beaucoup de plaisir, puisque les relations entre le Sénégal et les États-Unis ont toujours été de très bonnes relations. Les relations entre les États-Unis et l'Afrique aussi étaient très fortes à un certain moment. Si je vous dis que la constitution kenyane a été rédigée avec la participation de Thurgood Marshall, si je vous dis que la mise en place du panafricanisme doit beaucoup à Du Bois, si je vous dis que les premiers gouvernements ghanéens et même les gouvernements de Guinée-Conakry ont eu l'assistance d'Africains-Américains, vous voyez qu'au départ, les relations étaient parties pour être fortes. Mais je crois qu'une histoire politique et économique de l'Afrique qui a subi les contre-coups du néocolonialisme et de la dictature a peut-être quelque part découragé. Mais tout de même, la présence américaine et les relations avec l'Amérique ont toujours été quand même des relations positives, surtout en particulier avec le Sénégal.
Alors, on avait eu, lorsque Obama a été élu président, que les rapports entre les États-Unis et l'Afrique seraient renforcés et que ce renforcement allait se poursuivre. Mais pas de visite officielle de Donald Trump en Afrique jusqu'ici. Qu'est-ce que ça renvoie comme message?
Oui, je vous rappelle quand même ce que Donald Trump avait dit par rapport à ces pays-là. Je ne voudrais pas rappeler son expression qui n'était pas très, très, très jolie. Mais à cette occasion, moi-même, j'étais passé sur les antennes des radios et télévisions sur invitation de vos collègues journalistes pour leur dire que ce discours de Barack Obama et cette phrase qu'il avait utilisée n'engageait en aucune façon les Américains.
De Donald Trump, de Donald Trump.
Les Américains, en particulier des professeurs qui avaient une forte et une grande estime pour l'Afrique et qui prenait l'Afrique comme le deuxième pays. Donc, cela avait un peu émoussé et heurté les gens. Bon, il n'a pas jamais fait signe d'un intérêt quelconque pour l'Afrique, mais peut-être que, cette attitude est en train de tourner et de changer maintenant et que la visite de Pompeo sera un déclic pour des rapports qui soient des rapports beaucoup plus susceptibles de rapprocher l'Amérique et les pays africains davantage. D'autant plus que nous, Africains, nous y avons intérêt. Les Américains aussi y ont intérêt. L'Afrique, c'est plus d'un milliard de personnes qui sont des consommateurs. L'Afrique, c'est des pays qui seront bientôt des producteurs de gaz et de pétrole. L'Afrique a la jeunesse du monde dans l'avenir. La population africaine est la plus jeune au monde et la jeunesse porte le monde. Tout ça, c'est des facteurs dont il faut tenir compte. Okay. En même temps aussi, l'Afrique est le ventre mou du terrorisme. Si on permet au terrorisme d'avoir un pré carré en Afrique, mais à partir de ce moment, ça ne permettra d'attaquer tout le monde un peu partout. Alors, défendre le terrorisme ou lutter contre le terrorisme en Afrique, c'est aussi quelque part se protéger soi-même, quelle que soit la distance entre l'Afrique et le pays concerné, en l'occurrence les États-Unis.
Alors, juste pour remettre les choses dans leur contexte, et d'ailleurs, ce que vous disiez, vous parliez bien de Donald Trump, à qui on attribue cette phrase que je ne vais pas reprendre non plus. Mais Ousmane Sen, qu'est-ce qu'on peut dire des relations, justement, États-Unis-Afrique aujourd'hui, comparé au rapport que le continent entretient avec les autres grandes puissances? Je vais parler de la France, de la Chine, de la Grande-Bretagne, de la Turquie, de l'Inde, du Japon, par exemple.
Mais c'est une question très intéressante. Quand on nous parle de la France, c'est des rapports qui sont liés au colonialisme est quand même une présence de longue date en Afrique, ça ne peut pas partir comme ça. Tout ce que je souhaite, c'est que les rapports soient plus équilibrés et que ce qu'on appelle le précaré ou ce qu'on appelle la France-Afrique disparaisse définitivement. Et qu'on ne s'y trompe pas, les Africains eux-mêmes sont en train de travailler là-dessus, parce que les Africains quand même ne sont pas prêts à se faire exploiter sans rien faire. Il faudrait que cette perception de l'Afrique disparaisse, que les Africains sont là inconscients et qu'ils permettent à n'importe qui de faire n'importe quoi. Ça disparaît. Si on avait un peu de temps, on aurait même pu discuter l'influence du français en tant que langue dans un pays comme le Sénégal et vous verrez que les choses sont en train de bouger. Alors, la Chine est une grande puissance, mais qui sur le plan historique est neutre et qui vient prolonger la route de la soie en Afrique. Si les Africains y trouvent leur compte, vous signez un contrat tout de suite, le lendemain, on vous donne les dollars ou on vous donne les yens et vous pouvez commencer le travail. Mais tant mieux, c'est comme ça qu'on est en train de construire les autoroutes et tout ça. Et je vous dis, sans infrastructure, il ne saurait y avoir de développement. C'est impossible. Ceux qui disent qu'on ne mange pas le béton, si, bien sûr qu'on mange le béton. Si vous avez des tomates et d'autres produits au nord du Sénégal, si vous devez faire en sorte qu'on les commercialise à Dakar à 300 km, si vous n'avez pas de bonnes infrastructures, ces produits-là vont pourrir, évidemment. Les États-Unis, alors les États-Unis, c'est une relation très complexe. Je le rappelais aujourd'hui que sur l'île de Gorée même, il y avait deux pays qui avaient des représentations consulaires, la France et les États-Unis. Alors, il se trouve que Gorée aussi, c'est le symbole de l'esclavage. Donc, il y a des liens séculaires qui lient les États-Unis à l'Afrique, même si, tenant compte de l'esclavage, on ne peut pas dire que c'est des relations particulièrement positives, mais cela devrait rapprocher les États-Unis de l'Afrique et l'Afrique des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a la dimension africaine-américaine. Je vous le dis à nouveau, au début, avec les indépendances, le rapprochement était fort. Mais même avant l'indépendance, le panafricanisme s'est fait avec Marcus Garvey, mais en particulier s'est fait avec Du Bois.
Voilà.
L'épisode des coups d'État, l'épisode de la dictature, l'épisode de l'ajustement structurel, ces épisodes-là qui nous montraient une Afrique toujours perdante, ça a dit décourager certainement la population africaine-américaine. Vous ne vouliez pas avec un cousin qui ne gagne jamais rien, qui perd toujours. On ne peut pas être un loser en permanence. Donc ça a découragé. Mais les choses sont en train d'évoluer et il faut que la communauté africaine-américaine et les investisseurs se rendent compte qu'il y a quelque chose à gagner en Afrique. Il y a peut-être à faire pour l'Afrique, mais il y a aussi à gagner en Afrique. Et de plus en plus, les gens en prennent compte.
Effectivement.
Et je crois que les relations devraient se renforcer.
Alors,
pour le bien de tout le monde.
Effectivement. Et on va prendre, vous restez avec nous, Ousmane Sène, on va prendre quelques auditeurs. Mais d'abord, cette réaction d'Arsène Hervé Cameroun qui nous écrit sur Facebook, il dit « J'ai la conviction que si l'Afrique avait pour guide l'Amérique, nous serons loin, alors très loin depuis. Mais le malheur de l'Afrique est d'avoir connu la France. » Ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Et puis, Josca Ndamboué dit tout simplement « Bon séjour en Afrique ». De même que Alseni Ba qui dit « Welcome in Africa ». Alors, on va prendre la direction de la République démocratique du Congo où se trouve Alphonse Mbouaki. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, John.
Voilà, on vous écoute.
Je vous donne tous les beaux garçons du monde. Hein. Cours vers la belle fille de l'Afrique. Hein. L'Afrique possède des richesses. Alors, l'éducation ne peut pas se tenir en reste. Et donc, en créant de bonnes relations, cela va profiter aussi à l'Amérique, bien aussi à l'Afrique. Et donc, je pense que l'Amérique doit se réveiller. Nous, Africains, nous sommes contents de la présence de la Marc Pompeo, des personnalités du gouvernement américain. Et cela montre que l'Amérique pense aussi à l'Afrique. Au départ du mandat de... Donald Trump, on s'est lamenté parce que dans l'agenda de Donald Trump, l'Afrique ne figurait pas. Maintenant, on voit que les lignes bougent. Marc Pompeo vient en Afrique. Seulement ici, nous avons aussi l'envoyé spécial des États-Unis, des Grands Lacs, Peter Pham, Il est venu ici avec des officiels d'une société américaine, General Electric, qui vont investir, cette société va investir dans le secteur de la santé et de l'électricité. Et donc, vous voyez que les relations vont montrer avec l'Amérique. Donc, je pense que l'Amérique en profitera. Vous voyez, la Chine est présente partout au monde. C'est ce qui fait grossir à son économie. Donc, je pense que l'Amérique doit s'ouvrir au monde parce que c'est une grande puissance et cela va profiter à lui. Donc, l'Afrique, c'est une belle fille que les États-Unis doivent se rapprocher pour pouvoir bénéficier aussi d'atouts que possède l'Afrique.
Voilà. Alphonse, restez avec nous. Je voulais juste ajouter que le contrat dont vous parliez tout à l'heure s'élève à près de 2 milliards de dollars entre G-Electronique et le gouvernement congolais. On a évoqué la Chine depuis le début de cette émission. On va dire que l'influence croissante de la Chine qui a investi dans le continent africain, dans le cadre notamment de l'augmentation globale de ses dépenses d'infrastructures, sera également un thème majeur de la visite de Mike Pompeo en Afrique. C'est ce que disent certains responsables. La Chine a fortement investi en Angola, qui a accumulé près de 25 milliards de dollars de dettes auprès de Pékin. Une somme que le pays remboursera par des livraisons de pétrole. Alors, Ousmane Sène, les pays comme la Chine, pour ne citer qu'elle, donc, lorsqu'elle vient en Afrique, elle ferme presque les yeux sur, on va dire, les droits de l'homme ou sur les avancées ou non de la démocratie. Ce n'est pas le cas des États-Unis.
Oui, mais regardez la Chine elle-même. Hein. Le président actuel semble être un président à vie. Quand on a une situation comme ça et un seul parti politique qui dirige tout, je ne le reproche pas. Si ce système leur permet d'avancer leur développement, tant mieux. Mais quand on a une structure politique comme ça, on ne peut pas parler de démocratie à la pluripartisme et tout ça à d'autres personnes. Je crois que là, la Chine est tout simplement pratique et pragmatique. Encore qu'il y a lieu quand même de se soucier des populations quand dans certains pays, il y a des choses qui se font et qui ne sont pas de nature à respecter les droits de l'homme. Mais tout en étant présente sur le plan économique, je voudrais vous dire quand même que la Chine manque d'une présence que les Français peut-être ont, mais que surtout les États-Unis ont. Les États-Unis sont présents, trop présent même culturellement sur le continent africain. Regardez comment s'habille le jeune africain. Quel genre de musique écoute le jeune africain? Quel est le premier pays de destination qu'il préfère s'il doit émigrer? Quel est le personnage ou quels sont les personnages que les Africains, les jeunes Africains et les jeunes Africaines seraient plus promptes à imiter? Ça n'a pas le visage d'un Chinois, ça n'a pas le visage d'un Français, ça a certainement le visage d'un Américain et d'un Africain-Américain. Donc, je crois que les États-Unis auraient gagné à exploiter, et si vous voulez, cette présence culturelle extrêmement positive qui est là et qui pourrait certainement promouvoir ou favoriser les relations avec l'Afrique. À nouveau, je crois qu'une certaine évolution politique négative de l'Afrique depuis les indépendances a certainement découragé la couche de la population américaine qui aurait dû être le plus présent, la plus présente en Afrique, c'est-à-dire les Africains américains. Mais évidemment, quand vous êtes pauvre et que votre cousin aussi est pauvre, vraiment, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Je crois que tous ces éléments sont à mettre certainement dans le paquet pour comprendre un peu cette relation de « je t'aime, moi non plus ».
Alors,
c'est des facteurs psychologiques autant que des facteurs politiques et économiques.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure la France. La France qui mène une opération anti-djihadiste forte de 5200 hommes au Sahel et qui bénéficie d'une aide logistique de Washington s'est montrée particulièrement inquiète de l'impact que ces coupes budgétaires évoquées par l'administration américaine pourraient avoir dans cette lutte parce que les États-Unis envisagent de réduire leur force en Afrique au moment même où le continent fait face à de sérieux problèmes, notamment au plan sécuritaire et dans le cadre de la lutte, on le disait, contre le djihadisme. Comment analyser cette idée de retrait des États-Unis?
Oui, je crois que quand même, « Make America Great Again » de Donald Trump, je m'excuse, hein, c'est les États-Unis, un pays que j'aime, où j'ai le plus nombre d'amis, et où j'entretiens des relations avec le WAC qui sont très étroites. Mais je regrette que ce soit quand même une vision un peu myopique de la coopération internationale. La coopération internationale, ce n'est pas de la philanthropie. Je mets mes dollars quelque part parce que quelque part, j'ai un intérêt. Que ce soit un intérêt proche ou un intérêt lointain, c'est quand même un intérêt. Si les terroristes parviennent à s'installer durablement en Afrique, c'est tout le monde qui va en souffrir. Parce que si les États-Unis sont dans une situation où il leur est impossible d'avoir des bases arrières à Dakar, un avion chargé de militaires américains qui vient pour faire des opérations en Afrique a intérêt à avoir une base sûre à Dakar pour remplir les réservoirs de cet avion-là et pour pouvoir aussi donner de quoi s'alimenter à ces militaires-là. Je crois qu'il y a ces besoins-là, plus d'autres besoins.
Alors,
l'Amérique a pratiquement, dans chaque pays africain, une ambassade. C'est une bonne chose.
Alors, vous parliez d'ambassade. Je crois qu'on va revenir sur Alphonse Mboaki, puisque on a évoqué cette semaine de plus en plus de... De moins en moins, des visas sont accordés à ceux qui veulent venir ici aux États-Unis. Alphonse Mboaki, est-ce que vous avez cette perception-là au niveau de la RDC?
Mais en tout cas, moi, je pense que c'est la politique. Tous les pays ont droit de mettre en place les politiques d'immigration qui leur convient. Parce que l'Amérique, tout le monde veut aller là-bas. Même les djihadistes qui voient... Même les voyous, donc il faut que ça soit une immigration sélective moi, pour que ça bénéficie aux États-Unis. Donc, moi, je ne trouve pas de mal qu'on puisse rendre sévère l'immigration américaine. Donc, je pense que pour l'intérêt de l'Amérique, pour sa sécurité et aussi pour l'aide de l'Afrique, on veut que les gens qui passent là-bas soient des gens. Qui partent pas, qui obtiennent des bagages là-bas, et lorsqu'ils vont revenir en Afrique, ils puissent mettre ça au profit de l'Afrique. Donc,
c'est une bonne chose, en tout cas. Un autre secteur, et on va peut-être terminer par là avec notre invité. Un autre secteur, donc, les États-Unis cherchent à faire leur retour, c'est dans celui des affaires avec notamment le lancement le 6 février dernier à Tunis de l'initiative Prosper Africa. Au niveau économique, justement, Ousmane Sène, est-ce que l'Afrique, est-ce que les États-Unis réussissent à se faire une place?
Est-ce que c'est les États-Unis réussissent à se faire une place ou est-ce que les États-Unis cherchent à se faire une place? Parce qu'il y a une certaine vision de l'Afrique qui, pendant longtemps, a aveuglé les Américains et le reste du monde. Le continent le moins sûr, c'est l'Afrique. Le continent où il y a le plus de corruption, c'est l'Afrique. Le continent où il n'y a pas de démocratie, c'est l'Afrique. Tout ça, c'était des choses qu'on avait épinglées sur la veste de l'Afrique. Et il est temps que le regard change. Parce que le regard, il doit changer, parce que les choses sont autres. Il y a des Africains qui ont fait toutes les études du monde, mais qui ont refusé des possibilités. Et ça, on l'oublie, qui ont refusé des positions très, très agréables et confortables aux États-Unis ou dans d'autres pays. Il y a des Africains qui sont là, qui travaillent, et ça, je n'invente rien du tout. Il y a des Africains qui sont honnêtes et intègres, et je n'invente rien du tout. Il est grand temps que ce visage de l'Afrique-là, on le montre au reste du monde, et que le reste du monde accepte le fait que l'Afrique est le continent de demain. Et que d'une façon, il y a intérêt à travailler avec l'Afrique, parce qu'on a à y gagner.
Voilà.
Je ne suis pas en train de faire de l'idéologie. Je suis en train de vous dire tout simplement ce qui est. Le
voilà.
Vrai visage de l'Afrique, l'Amérique ne l'a pas encore vu, l'Europe l'a ignoré, mais il faudrait que les gens se rendent compte que l'Afrique est le continent de demain.
Et il faudrait...
Et il faudrait aussi, pour terminer, peut-être Ousmane Sène, que les Africains eux-mêmes réussissent à vendre la bonne image de leur continent. Merci vraiment pour votre disponibilité. On va se retrouver pour discuter plus longuement dans d'autres émissions. D'ici là, je vous laisse en compagnie d'Abdourahmane Dia pour les informations. Michel Joseph était à la production. John Lyndon vous a présenté cette émission. Merci d'avoir suivi. Au revoir.